J'étais juste en train de dire merci David, merci de ta présentation et de ton invitation. Je suis ravie de me retrouver avec toi, avec Élie par-delà les mers et avec vous tous pour envisager effectivement les influences probables de cette élection américaine qui nous a tenus en haleine et qui n'a pas fini. Tu as présenté très bien la situation immédiate, elle est complètement inédite. C'est là quand même la première fois, et j'ai bien fouillé, hein, première fois dans l'histoire américaine, qu'on a un président qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection et qui semble décidé à s'incruster à la Maison-Blanche quoi qu'il en coûte et qui cherche à retourner le résultat d'une élection qui est en fait incontestable. Tout un tas de gens autour de lui ou même dans le Parti républicain qui n'ose pas vraiment lui dire ce qui se passe dans le monde réel, de peur qu'il se fâche trop et que leurs propres intérêts y perdent. J'ai même entendu des réflexions dans le style « Oui, enfin bon, d'accord, mais si ça peut quand même le mettre de meilleure humeur !» Voilà, alors que quand même l'enjeu, c'est la démocratie américaine et c'est pas un petit pays et beaucoup de l'avenir du monde en dépend. Et on a une sorte de personnage, un petit peu le roi Lear devenu fou ou Ubu Roi en son palais. C'est quand même extrêmement étrange et inédit. Et ça nous pose beaucoup de questions sur justement la solidité et l'avenir de cette démocratie américaine. Tu as rappelé les chiffres de l'élection, David. Et en fait, comme les comptes continuent, parce que voilà, dans les États, même si les résultats sont définitifs et ne changeront pas, on en est à aujourd'hui 79,8 800 000 voix pour Joe Biden. Donc on peut dire qu'il aura en gros 80 000 voix, 80 millions de voix, pardon, pour un peu plus 73 millions pour Donald Trump. Donc il y aura à peu près au moins 6 millions de voix d'écart, 3 points d'écart, on est à 47-51, presque 4. Et le chiffre de grands électeurs que tu as cité, qui évidemment ne bougera plus. Donc c'est une élection qui est incontestable et qui a été reconnue comme telle par toutes les autorités chargées de contrôler les élections et qui comprennent toujours des démocrates et des républicains. Et personne de bon sens et à moitié informé ne doute que voilà, ben Joe Biden a gagné l'élection. Puisque avec vous, je vais m'interroger quand même sur ce que ça nous dit de l'état de l'Amérique et de l'avenir de cette démocratie américaine, y compris d'ailleurs de l'influence que l'état de la société, l'état des institutions, l'influence que ça peut avoir sur le rôle international des États-Unis. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que malgré tout, on a eu une bonne surprise dans cette élection. Et je ne parle pas simplement du résultat qui est quand même un petit peu apaisant, disons, même si on n'a aucune illusion sur la facilité de la suite, mais par le fait que quand même, alors que le pays est aussi profondément divisé, avec des gens qui n'arrivent plus à se parler, eh bien écoutez, les gens sont allés voter. Ils sont allés exprimer leur point de vue, souvent des points de vue très enracinés, très forts, dans les urnes. Ils ont fait la queue, ils ont voté par correspondance, ils ont voté le jour même, mais en tout cas, ils ont voulu voter pour se faire entendre d'une manière pacifique et démocratique. Et tu l'as rappelé, David, la participation est la plus élevée du XXe siècle, à 67% d'électeurs potentiels. Non seulement ils sont allés voter, mais ensuite, eh ben, ils ont été patients. Ils ont attendu jusqu'au samedi soir, donc du mardi soir au samedi soir pour que les résultats soient annoncés. Et puis une fois le résultat annoncé, eh bien, il faut bien dire que ceux qui ont perdu l'élection et qui le vivent mal, et c'est bien naturel, eh bien, ils ont encaissé le résultat patiemment. Et là aussi, de manière démocratique, on avait beaucoup évoqué, à juste titre, l'inquiétude d'affrontements, de manifestations. On avait évoqué le terme de guerre civile en sachant que, bon, de toute façon, on serait en deçà heureusement, de ce niveau de violence, mais le potentiel de violence, il était bien réel dans un pays où les armes sont extrêmement nombreuses et où l'achat d'armes avant l'élection était très impressionnant. Donc, sur le côté réconfortant des choses, parce que tout n'est pas réconfortant, je mettrai l'accent quand même sur cette fibre démocratique des citoyens américains qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui ont voulu l'exprimer de manière pacifique et qui, au fond, encaissent pour 71 millions d'entre eux un résultat qu'ils n'ont pas souhaité. Alors, on verra, hein, tout ne va pas se passer magnifiquement. Pour l'instant, je trouve que c'est quand même assez impressionnant comme exemple, au fond, de fonctionnement dans un démocratique dans un pays aussi profondément divisé. Mais au-delà de ça, on peut dire que la démocratie américaine, elle a eu chaud. Et qu'on a tous ressenti, je crois, ou presque tous, que cette élection, c'était un peu celle de la dernière chance. Et non pas parce que ce serait inacceptable qu'un républicain soit élu, non pas parce que Trump n'a fait que des mauvaises choses, ce serait beaucoup trop simple, mais parce que Joe Biden est un homme qui respecte les institutions et la démocratie américaine, et parce que Donald Trump est un populiste qui s'était donné pour mandat de renverser la table et qui a totalement piétiné les institutions autant qu'il l'a pu et qui a fait régner à la Maison-Blanche la corruption, le mensonge à un degré jamais égalé et l'incompétence, parce que même s'il n'a pas tout raté, hein, si vous souhaitez, on reviendra ensemble là-dessus, c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais pris cette fonction réellement au sérieux et qui a visé avant toute chose son intérêt personnel, tant sur le plan politique, sa réélection c'était quand même son grand projet, que même financier. Et cette démocratie américaine, elle a été sauvée in extremis, et d'une certaine manière, les alliés américains aussi, les alliés des Américains, parce que Donald Trump avait toujours souhaité sortir de l'OTAN, et il était tout à fait possible que s'il était réélu, il en tirerait d'abord pour conclusion première que ses méthodes étaient entièrement légitimées et que tout était permis, et puis que par ailleurs, mais c'est par exemple sortir de l'OTAN était une chose qu'il pouvait faire puisqu'il n'avait plus peur de personne et plus rien à craindre. Donc les États-Unis ont obtenu un répit, mais ça ne veut pas dire évidemment que l'avenir s'annonce tranquille. Les institutions, elles ont résisté, mais pas si bien que ça quand même. Le Congrès n'a pas pu exercer sa fonction de contrôle sur l'éthique dans le gouvernement et l'éthique au sommet de l'État, notamment. Le concept de vérité, le concept d'intérêt général, tout cela a été mis à mal. Les tribunaux ont été pas mal politisés, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'ils devraient être. Pour moi, j'ai vraiment observé ce fonctionnement démocratique américain pendant 4 ans et l'espèce de choc, de stress que cette présidence a été. Je fais partie des gens qui en ont conclu que ce qui préserve une démocratie, ça n'est pas seulement la loi ou le respect de la loi. La loi, ça ne suffit pas. Et qu'il faut le respect des règles non écrites, qui sont le respect de l'adversaire, le respect du débat, le respect de la vérité, le respect des citoyens, le respect du suffrage, puisque l'élection, c'est quand même l'acte fondateur dans une démocratie. Au fond, toutes sortes d'éléments qui permettent l'alternance du pouvoir. Quand un parti ne juge pas que l'autre parti est inacceptable et illégitime, quand on perd l'élection, on n'est jamais ravi, mais on considère que, OK, bon, voilà, ce ne sont pas mes options préférées qui ont gagné, mais ça va, on peut vivre avec, et puis dans 4 ans, on essaye de parvenir à un autre résultat. Ce sont toutes ces règles non écrites qui permettent le fonctionnement démocratique, la pérennité des institutions et que Donald Trump a piétiné tous les jours. En envisageant l'avenir de cette démocratie américaine, dont je pense qu'elle est quand même très fragilisée, il y a évidemment la question du système électoral. On est tous experts maintenant sur les cantons, les comtés, les modes de calcul, les grands électeurs, etc. Mais on a beau, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, nous répéter que c'est un système fédéral et que c'est comme ça, c'est pas vrai fondamentalement. C'est-à-dire que ce système des grands électeurs, il est issu d'un compromis qui date du XVIIIe siècle entre États esclavagistes et États qui n'étaient pas esclavagistes. Et c'est une côte mal taillée pour préserver les intérêts locaux vis-à-vis des intérêts fédéraux. Et c'est un système qui réellement n'est bien accepté que, et ça c'est la plupart du temps, les deux votes concordent, quand le gagnant du vote populaire est également le gagnant du collège électoral. Dans ces cas-là, il n'y a pas de raison de se fâcher. Et chaque fois que ça n'a pas été le cas, ça s'est fondamentalement mal passé. Il y a eu cinq exemples dans l'histoire, et à part George W. Bush, jamais un président minoritaire, quand il entre à la Maison-Blanche, n'a été réélu. Et le cas de George W. Bush, c'était le cas d'une guerre. On était en pleine guerre d'Irak et beaucoup de gens ont considéré que ce n'était pas le moment de changer de commandant en chef. Donc, la question du système électoral, elle ne va pas être résolue. Ce système est irréformable, mais c'est une fragilité quand même pour l'avenir de la démocratie américaine. Par ailleurs, sur l'avenir de cette démocratie, pèse le rôle que jouera Donald Trump, non seulement dans les 2 mois qui viennent, mais dans les années qui viennent. Je suis sûre qu'il ne sera pas à l'investiture de Joe Biden, d'autant moins que la cérémonie sera certainement très resserrée à cause du Covid, et de toute façon, il est hors de question pour lui de faire un rôle de figuration muet et sans avoir les caméras braquées sur lui, ce qui est le rôle du président sortant. Il est juste là pour serrer la main du nouveau en lui disant bonne chance, toute chose dont Donald Trump est fondamentalement incapable. Mais Donald Trump n'a aucune intention de disparaître du paysage politique. Et donc l'influence pernicieuse qu'il exerce, et il a, on le sait évidemment, de très grands soutiens dans le pays, quelques 73 millions de voix, c'est considérable. Il n'y a pas que des fanatiques de Trump, mais enfin, c'est un électorat très vaste et qui s'est vraiment mobilisé pour lui. Et Donald Trump va rester présent, que ce soit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et peut-être, il a l'air de se diriger vers ça, l'annonce d'une candidature en 2024 qui aurait déjà pour premier effet d'écraser tous les rivaux potentiels et de maintenir le Parti républicain sous l'emprise de Donald Trump. Quand on voit l'attitude actuelle du Parti républicain, qui est quand même stupéfiante, qui est de ne pas reconnaître le monde réel où Joe Biden a gagné l'élection pour ne pas fâcher le président. Bon, il y a quelques exceptions, mais elles sont vraiment rares. Les intérêts discernés, c'est d'une part l'élection sénatoriale en Géorgie, puisqu'il y a une sorte de ballottage en quelque sorte, et qu'il y a 2 élections sénatoriales en Géorgie au mois de janvier, qui pourraient changer la majorité au Sénat. Moi, je n'y crois pas trop. Les républicains sont à 50 et forcément les démocrates à 48. Et il faudrait que les démocrates gagnent les 2 sénatoriales pour arriver à 50, avec la voix, dans ce cas-là, de Kamala Harris en tant que vice-présidente, qui pourrait voter quand les lois ou les divers éléments qui passent devant le Sénat se retrouveraient à une division 50-50. Elle pourrait faire la balance pour faire 51. Ça me paraît peu probable. Mais en tout cas, l'intérêt premier des élus républicains, c'est d'avoir la majorité au Sénat. Et ils ne veulent pas fâcher les électeurs de Donald Trump, et ils ne veulent pas fâcher Donald Trump lui-même. Ils en ont terriblement peur. Et ça a été le cas pendant 4 ans. Et encore aujourd'hui, tous ceux, ils sont rares, on les compte sur les doigts d'une main ou 2 maximum, qui disent ben, Joe Biden a gagné l'élection, se voient immédiatement traîner dans la boue sur Twitter, et ils n'ont pas envie d'affronter ça. Donc la mainmise de Donald Trump sur l'avenir du Parti républicain, pour l'instant, ça reste quelque chose de très fort avec ce qu'il représente, de populisme, de brutalité dans le débat, et d'exercice du mensonge comme arme dans le fameux débat et dans la lutte politique. Je dirais à cet égard, mais sans le développer, qu'on peut aussi avoir quelques inquiétudes sur l'avenir du Parti démocrate. Évidemment, tout le monde s'est rangé derrière Joe Biden, la coalition elle est très large, d'autant plus que les électeurs de Bernie Sanders, qui en 2016 avaient pour certains refusé de se compromettre en votant Hillary Clinton, ont quand même aidé à l'élection de Donald Trump et ont vu le résultat. Donc, depuis 4 ans, ils ont bien compris ça, et la coalition démocrate, elle est vraiment large. Mais honnêtement, quand on voit ce qui se passe à la gauche du Parti démocrate, dans la presse et les journaux que l'on lit tous, le New York Times, le Washington Post, etc., il y a de quoi aussi être inquiet pour l'avenir du rôle que les États-Unis joueront dans le monde, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans un avenir relativement proche. Donc, ça pour dire que les Républicains sont devenus le parti de Trump, mais que les démocrates ne sont pas à l'abri de dérives ou de tensions assez dangereuses. Ces divisions dans le monde politique, elles reflètent évidemment des divisions dans la société. Ces millions et millions d'électeurs qui ont voté pour l'un et pour l'autre, et qui fondamentalement ne sont d'accord sur rien. Si on prend les grands dossiers qui se posent à l'heure actuelle, le rôle de l'État, le choix entre la santé et l'économie, le système de santé, l'accès aux soins, la manière d'organiser une assurance médicale pour tous ou pas, les impôts, et évidemment, le climat, qui est quand même un dossier absolument fondamental pour l'avenir de tout le monde, la question des armes, la question de l'immigration, les questions dites morales, l'avortement, le mariage gay. Les divisions sont très profondes sur tous ces sujets. Et elles sont portées par les partis politiques à incandescence. Enfin, depuis que le système américain existe, il a été construit par les fameux pères fondateurs qu'on cite à tout propos, les rédacteurs de la Constitution. Ce système, il a été construit pour la division du pouvoir horizontal, vertical, dans tous les sens, et que personne ne puisse faire rien sans l'accord des deux autres. Quand on vote le budget et que ça se bloque, par exemple, le fameux shutdowns, ben c'est normal, c'est comme ça que ça marche. C'est quand ça bloque, ça correspond aux intentions des rédacteurs de la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se mette d'accord. Sinon, la loi budgétaire ne peut pas passer. Donc, il faut se mettre autour de la table, il faut négocier, il faut faire un compromis. Et un compromis, ça veut dire que personne n'est très content et que personne n'a non plus tout perdu. Et le but, c'était qu'on reste dans le juste milieu et qu'on évite à la fois la dictature de la majorité, la dictature de la minorité et les extrêmes. Or, on a à l'heure actuelle un monde politique qui, depuis pas mal d'années, mais depuis les années 90, depuis la présidence de Bill Clinton, depuis évidemment la présidence d'Obama, où ça a été porté vraiment au pinacle, sous évidemment la présidence de Donald Trump, le compromis est devenu pour les élus républicains le mot absolument anathème. On ne fait plus de compromis, on ne fait plus de lois bipartisanes, on ne fait plus de grandes réformes. Le système de gouvernement ne fonctionne plus ou vraiment à la marge. Et quand on voit Joe Biden, qui au fond a certainement été choisi par près de 80 millions d'Américains parce que c'est un homme de compromis, parce qu'il suscite ni le culte de la personnalité qui avait pu entourer Obama, ni le rejet violent que certains ressentent à l'égard de Donald Trump, c'est un homme d'expérience, de calme, de raison et de compromis. On n'est pas sûr qu'il puisse transmettre ça à ses anciens collègues du Sénat, où il a quand même passé 27 ans, il connaît tout le monde, mais il est certain que ce sera pour lui très difficile si le Sénat a une majorité républicaine, comme je pense que ça sera le cas. Et pour dire un mot sur les sujets de division, sur la manière dont le monde politique creuse ces divisions, tout simplement pour se faire élire, et garder le pouvoir. Et je dirais un mot sur ces citoyens qui ne sont d'accord sur rien et qui sont représentés par des élus qui refusent de faire des compromis entre eux. Quand on analyse le vote qui vient d'avoir lieu, on voit que aucun bloc d'électeurs évidemment n'est uniforme. Vous avez des gens dont tout le profil pourrait nous amener à penser qu'ils votent d'un côté ou de l'autre, et puis finalement, non, il faut un choix différent. Mais à grands traits, d'une manière un peu caricaturale forcément, on peut dire que Donald Trump est plus apprécié chez les électeurs blancs, plutôt d'un certain âge, qui n'ont pas fait d'études, les moins éduqués, mais également les plus fortunés, pour des raisons fiscales et autres, et peut-être aussi de point de vue sur le rôle de l'État, et également très fortement dans l'électorat de Donald Trump, les évangéliques blancs, ces protestants ultra-conservateurs. Les électeurs de Joe Biden, ils sont souvent plus jeunes, plus éduqués, ils ont souvent fait des études, ils vivent plutôt dans les villes, ils sont dans un système de société plus métissé, plus à l'aise dans la globalisation, pour ceux qui ont fait des études, notamment. On voit aussi que les minorités, généralement, votent plutôt démocrates parce qu'elles se sentent assez menacées, finalement, parce que peut représenter Donald Trump. Je dirais juste un mot à cet égard du fameux vote juif, dont souvent certains croient que ça fait toute la différence. Eh bien, écoutez, on n'a pas beaucoup d'études là-dessus encore, et ça n'a pas passionné les instituts de sondage, ce qui est plutôt sain, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas, j'ai vu que deux sondages, l'un qui disait que les juifs américains avaient voté Biden à 70%, et un autre à 60%. Donc, de toute façon, ça veut dire qu'on est dans les proportions habituelles de 2/3, 1/3, sachant que l'attachement des Juifs américains au Parti démocrate, il est ancien, il vient de loin dans l'histoire, et que ce sont souvent des citoyens qui sont vraiment plus engagés dans la société civile, dans la vie associative, et qui ont des préoccupations sociales fortes qui font qu'ils ont plus tendance à voter pour le Parti démocrate. Je laisserai à Élie le soin d'évoquer, évidemment, le rapport des Juifs américains avec la question de la sécurité d'Israël et des Juifs israéliens au sujet, justement, de la sécurité d'Israël et des rapports avec Donald Trump, qui a tenu un certain nombre de promesses à l'égard d'Israël, et avec Joe Biden, qui amène une équipe où finalement on connaît presque tout le monde, j'ai envie de dire, puisque les premiers nommés sont Anthony Blinken au département d'État, donc ministre des Affaires étrangères, John Kerry chargé du climat, ce qui nous amène à voir que ce sont des multilatéralistes, des démocrates fidèles aux alliances, dont la première mission sera de vraiment renouer les liens avec l'Union européenne, avec, de la part d'Anthony Blinken, la volonté de forger des projets communs avec les Européens, des stratégies communes face à la Chine en matière de commerce, en matière de géopolitique, en matière aussi d'agressivité potentiellement militaire de la part de la Chine, également à l'égard de la Russie. Donc, il y a un dossier européen très fort pour le nouveau ministre des Affaires étrangères. Il y a un dossier chinois, il y a un dossier russe. Il aura 15 jours à partir du 20 janvier pour réactiver l'accord START sur le contrôle des armes nucléaires. C'est le dernier accord qui reste entre la Russie et les États-Unis sur le contrôle des armes nucléaires. Un gros dossier sur l'Asie, en matière évidemment de commerce, de sécurité et de liens à retisser avec tous ces pays, qui, si ce n'est voisins, parce que la zone est tellement grande, mais en tout cas proche de la Chine en Asie, avec lequel la Chine vient de conclure un accord de libre-échange qui est l'un des plus grands du monde, alors que Donald Trump s'était retiré de l'accord de partenariat transpacifique qui aurait eu pour but justement de renforcer au fond la position des Occidentaux face à la Chine. Donc il aura beaucoup à faire, le nouveau secrétaire d'État. Et je conclurai là-dessus en disant que le Moyen-Orient ne sera pas en haut de la liste. Évidemment, ça n'est pas sans intérêt. On peut s'imaginer quelque chose de plus traditionnel dans les relations avec l'autorité palestinienne, mais en fait, la vraie priorité au Moyen-Orient, et c'est bien naturel, ce sera la question de l'Iran, ou la réactivation possible ou non, parce que ce ne sera pas du tout simple, du fameux traité, le fameux accord de contrôle du nucléaire iranien. En Israël, la question du rapport avec la nouvelle équipe, après Donald Trump, elle est hyper sensible, et la question de l'Iran, elle est hyper sensible, et c'est vrai que Donald Trump, d'une certaine manière, a donné au moins à la droite israélienne tout ce qu'elle attendait, Et que j'ai parlé avec beaucoup d'Israéliens me disant, bon, mais d'accord, mais Trump, c'est Trump, mais en même temps, voilà, il nous donne les choses dont on avait besoin. Et ce n'est pas négligeable. Et maintenant, ce sera peut-être plus pareil. Et c'est certainement vrai également. Et moi, la question que je me pose, c'est toujours celle-ci, est-ce que ce n'est pas au fond affreusement dangereux pour Israël de lier son sort à une Amérique qui ne serait plus démocratique? Et est-ce que malgré les difficultés qu'on peut anticiper avec l'équipe Biden, on ne restera pas dans quelque chose de beaucoup plus sain, qui est justement une alliance entre des démocraties avec des valeurs communes?